Et donc, eh bien, ravi de vous voir aussi nombreux. D'abord, je mets un moment ma casquette de délégué artistique, de voir les classes et les enseignants aussi nombreux, aussi fidèles aux Utopiales. Merci beaucoup d'être là. Et ne nous y trompons pas, c'est bien à nous de vous remercier, parce que ce qu'on vous propose, eh bien, il faut que ça vous intéresse, donc c'est le but. Donc merci à vos enseignants et à tous les partenaires qui sont avec nous. Alors vous avez un certain nombre d'intervenants qui ont été choisis, qui vous parlent de la science-fiction, qui vous parlent de la manière dont on construit, tout à l'heure Claude Eken sur scène. De l'autre côté, vous parlez de la manière dont on construit une histoire de science-fiction. Moi, ce dont je vais vous parler, c'est du temps, en fait. Je vais vous parler du temps, pourquoi ? Eh bien parce que dans ma formation, vous savez que les auteurs de science-fiction ne sont pas forcément des écrivains à part entière. Ils ne sont pas forcément des auteurs à plein temps, et que bien souvent, la majorité d'entre eux sont aussi des enseignants, des chercheurs, parfois des voyageurs, des journalistes. Tout à l'heure, Claude Eken le disait, pour devenir auteur, écrivain de science-fiction, souvent, on se nourrit de son expérience, de son vécu, et parfois de ses recherches aussi. Alors par exemple, peut-être, vous ne le savez peut-être pas, mais peut-être certains de vos enseignants écrivent de leur côté quand ils ont un petit peu de temps, après avoir corrigé vos copies, après avoir préparé leurs cours, et ils écrivent peut-être tout simplement des romans, et peut-être certains, puisqu'ils ont eu l'idée de vous amener ici aussi, eh bien, des romans de science-fiction. Ils ne sont pas obligés de vous le dire, hein, c'est une activité qu'ils font en plus. Alors moi je suis universitaire, je travaille à l'université de Nice, je suis historien du droit et des idées politiques. C'est-à-dire que j'étudie en gros les formes politiques à travers le temps, par exemple l'Empire romain, la France à l'époque monarchique, la Révolution française, la naissance des États-Unis, des colonies américaines par exemple. Et puis, eh bien, quand j'ai du temps, mais quand j'ai vraiment besoin d'écrire, parce que c'est aussi un besoin l'écriture, eh bien, je prends mon ordinateur, ma plume. Oui, très bien. Merci. Je prends mon ordinateur, ma plume, et puis j'écris de la science-fiction. Alors forcément, quand on écrit de la science-fiction, on utilise ses connaissances. Et donc moi, j'utilise mes connaissances sur ce que je connais un tout petit peu mieux que d'autres choses, à savoir le temps. Le temps et ce qui est lié au temps, c'est-à-dire l'histoire. Alors j'ai appelé cette conférence avec un titre un peu provocateur, « Et si on commençait par la fin ?» Puisqu'après tout, lorsqu'on raconte une histoire, qu'on prenne une histoire avec un grand H ou une histoire avec un petit H, eh bien, il y a toujours un moment où il faut mettre le mot fin dessus. Et dans notre conception du temps, notre perception, je dirais, philosophique et culturelle du temps, eh bien, vous êtes tous d'accord avec moi que le temps a un début, un commencement, un développement, une fin. Par exemple, vous êtes arrivé ce matin, peut-être certains m'ont vu lorsqu'on a pris vos tickets, vous êtes arrivé ce matin, vous vous êtes installé, vous avez commencé à regarder les tables rondes, ça s'est passé avant. Puis maintenant, vous êtes ici avec moi, c'est donc le présent maintenant. Et puis, dans votre futur proche, vous serez avec d'autres intervenants et peut-être après chez vous, avec votre famille, et puis de retour au lycée ou au collège. Donc nous avons une conception linéaire du temps. C'est-à-dire qu'on considère le temps comme une flèche qui va d'un point de départ, d'un arc, imaginez un archer imaginaire, et il lance cette flèche et donc elle part de son arc, et elle va finir à un moment donné par s'arrêter quelque part. Cette conception du temps, d'abord, est-ce que vous savez d'où elle nous vient ? Alors moi je vous préviens, j'aime bien intervenir avec le public, hein, et j'aime pas que le public soit devant moi comme ça à attendre que je parle. Donc si vous pouvez lever la main, c'est super, comme ça je peux avoir quelques petites réponses très courtes. Donc pas besoin que vous ayez un micro, juste une réponse très courte. D'après vous, d'où vient notre conception du temps ? Ça vient d'où cette conception ? Oui ?
La nuit et le jour ?
La succession de la nuit et du jour, très bien, ça c'est quelqu'un qui a vu la conférence d'Estelle au début, oui. Culturellement, si on prend des origines culturelles, d'où est-ce que ça peut bien venir ? À partir de quand notre civilisation, entre guillemets, en Occident, on va dire, à partir de quand le temps a été envisagé comme un temps linéaire qui va dans un seul sens ? Même si après on verra qu'en science-fiction on peut explorer peut-être le passé, le futur, des histoires alternatives, je vais voir tout ça avec vous. À quel moment ça remonte ? Est-ce que par exemple, je ne sais pas, hein, pour les lycéens et les collégiens que vous avez un petit peu parlé peut-être d'Antiquité, est-ce que dans l'Antiquité, on concevait le temps de la même manière ?
En utiliser un panneau solaire.
Oui, des panneaux solaires, ça c'est pour le temps de la journée. Hein. Mais si je prends le temps au sens de l'année, de plusieurs années, quelle était la conception du temps dans l'Antiquité? Quelqu'un a une idée? Chez les Grecs, par exemple? Non? Eh bien, les anciennes civilisations, souvent, avaient une conception du temps qui était plutôt une conception cyclique. Ils imaginaient le temps comme une roue, c'est-à-dire que ce qui s'était passé allait inévitablement revenir. Et finalement, l'humanité tout entière était dans une boucle temporelle qui tournait sans fin. Alors c'est les Grecs, hein, notamment, qui imaginaient cela, avec cette idée, par exemple, que leur régime politique ou leur cité pouvait naître, grandir, dégénérer, et puis que de toute façon, que ce soit une démocratie, une aristocratie ou autre chose, une monarchie, ça revenait tout le temps, ça revenait tout le temps. C'est la pensée chrétienne, le christianisme, qui s'est imposé au moment du début, en quelque sorte, entre le début et la fin de l'Empire romain, pour faire très simple, qui a donné l'idée de linéarité du temps. Le temps va dans un seul sens. Pourquoi? Parce que la pensée chrétienne, le christianisme, a dit, voilà, il y a un Dieu créateur, c'était une vision comme une autre, donc le monde a été créé à un moment donné, et le monde prendra fin à un moment donné. Ce qui veut dire que nous savons, ou nous imaginons, c'est culturel, hein, vous n'êtes pas du tout enfermé dans un dogme ou dans une croyance, mais nous imaginons ou nous croyons que le temps aura une fin un jour, que le monde va disparaître. C'est pour ça qu'on jongle beaucoup cette année avec la notion de la fameuse fin du monde. Il y a une expression qui, pour les anciens Grecs, ne voulait rien dire, qui est la fin des temps. Si le temps a commencé à un moment donné, il va peut-être s'arrêter à un moment donné. Tout ça, c'est complètement culturel, hein. Ça n'a absolument rien de définitif ou d'absolu, et la science peut montrer, même parfois, les physiciens en sciences, en physique quantique, montrent même, Marc Lachaiserie le fait très bien, par exemple, que le temps n'existe pas, et qu'il n'y a, en fond, que des perceptions subjectives du temps, c'est-à-dire votre temps, le temps de madame, par exemple, n'est pas le même que le mien. Par exemple, si mon propos, ce que je suis en train de vous dire, l'intéresse, ça va lui sembler court. Mais si ça l'ennuie, ça va lui sembler très très long. Quand vous faites un exercice de maths, ça va vous sembler très 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 long, sauf les passionnés en mathématiques. Vous êtes là avec votre exercice, oh là là, oh là là, oh là. Alors que si vous regardez une série télé ou que vous écoutez une bonne musique que vous aimez, bah ça sera toujours trop court. Vous allez vous dire, oh là là, ça y est, c'est l'heure de rentrer en classe, ça sera toujours trop court. Donc, quelque part, on a des conceptions du temps qui sont différentes les uns des autres. Mais on est tous globalement d'accord ici que, eh bien, cette conférence, elle a un début, un milieu, une fin. Alors, dans cette conception du temps, il y a quelque chose qui nous parle énormément, c'est on sait à peu près ce qui s'est passé, ça s'appelle l'histoire. On sait à peu près, par les études des chercheurs, par l'archéologie, par toutes les études scientifiques, on sait à peu près ce qui est arrivé avant, mais on reste dans l'incertitude tous, à part si on était des voyageurs temporels, ce qui sans doute est le cas pour la moitié des personnes présentes, en fait, qui sont venues réassister à ces excellentes utopiales qu'ils n'ont pas pu voir parce qu'ils n'étaient pas encore nés. Donc parmi vous, il y a des voyageurs temporels. Regardez autour de vous, il y a certainement des gens qui sont venus du futur lointain pour assister aux utopies à l'origine 2012, parce qu'ils n'étaient pas nés à l'époque. Et puis qu'on a inventé la machine à voyager dans le temps, dans à peu près, on va l'inventer à peu près dans 15 ou 20 ans, quelque chose comme ça. Donc il y en a qui pensent beaucoup au futur. Qu'est-ce qui se passera demain? Je ne sais pas. Est-ce que le monde va disparaître le 21 décembre 2012? Bien malin qui pourra le dire, les Mayas ne sont plus là pour en parler, on a de vagues prédictions, tout le monde s'excite à ce sujet, mais personne n'en sait rien. Et surtout, qu'est-ce qui se passera dans un futur très 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 lointain? Alors ce que je vous propose, c'est de faire ça en deux temps, en trois temps même, c'est le cas de le dire, hein, trois temps. Premier temps, on va explorer le futur. Deuxième temps, on va explorer le passé qui aurait pu avoir lieu, mais qui n'a pas eu lieu, parce que peut-être tel ou tel événement aurait pu être différent. Et troisième temps, on s'amusera à jouer les voyageurs temporels. Oui.
Les Mayas, ils ont peut-être pas fini leur calendrier parce que les Américains, ils sont venus les tuer avant.
Oui, très bien. Oui, le conquistador. Oui. C'est vrai, c'est une très bonne remarque. Peut-être que si les Mayas avaient fini leur calendrier, ils auraient montré qu'en fait, c'était pas cette fin du monde-là, c'était la suivante, effectivement. Si on avait encore des Mayas parmi nous, peut-être qu'ils pourraient nous aider. En tout cas, sachez que les scientifiques et les chercheurs savent très bien qu'il n'y a pas de raison véritable pour que le monde disparaisse le 21 décembre. Mais peut-être qu'on ne sait pas tout aussi. Alors, premier point de cette conférence, explorons un petit peu le futur. C'est un des jeux intellectuels, un des jeux de la science-fiction qu'on aime bien pratiquer. Quelles seront, par exemple, les villes du futur ? Alors voilà une représentation d'une ville du futur par un auteur, par un architecte russe d'il y a quelques années. Qui peut me faire un commentaire sur cette présentation de ville du futur ? Qui a un commentaire à faire sur ce que vous voyez à l'écran ? Je pense surtout aux étudiants. Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que ça vous parle ou pas ? Non, ça vous paraît complètement ringard. Bah oui. Et oui, pourquoi ça vous paraît complètement ringard ? Parce que finalement, là, personne n'imagine qu'on va bâtir des villes comme ça dans les années qui viennent. Vous êtes d'accord ? Tenez, je vous montre une autre image. Je vous montre une autre image et puis on comparera les deux. Est-ce que ça vous parle plus ? Est-ce que quelqu'un imagine possiblement que nos architectes bâtissent dans le futur une ville comme ça ? Globalement, non, hein, non plus. Hein. Pas tellement, ça vous parle pas tellement. Bon, j'essaye encore autre chose. Je vois, parce que je veux vous satisfaire, donc je cherche. Hein, je regarde dans les petites images que j'ai. Ça, est-ce que ça vous parle ? Ah ! Ah, ça a l'air beaucoup plus fun déjà. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est la ville du futur, vous y croyez ? Une ville comme ça, sur l'eau, avec des appartements sous-marins pour voir les poissons, et puis beaucoup, beaucoup de verdure. Vous voyez, elle est très... Comment pour la qualifier, cette ville ? Elle est comment ? Elle est très écologique, en fait. On a l'impression que c'est une ville, vous voyez, centrée sur le vivant, le respect des éléments, le respect de la nature. Vous voyez, énormément d'espaces verts avec de la circulation de l'air, des palmiers, on imagine un centre de jeu, un jardin immense au milieu. Et puis des appartements, vous pouvez choisir. Alors ceux qui voudront les appartements en hauteur pour voir la mer, l'horizon. Et puis ceux qui voudront les appartements sous-marins pour vivre toujours avec des poissons comme dans un aquarium géant. Alors vous voyez, entre ça... Donc, qui vous parle a priori un peu plus. Allez, je vous en montre encore une quatrième, parce que je ne résiste pas au plaisir de jouer avec vous. Je regarde ce que j'ai à ma disposition. J'ai ça, par exemple. Ça, c'est pour aller encore plus loin. À quoi ça vous fait penser, à ça ? C'est quoi, d'après vous, ça ? C'est quoi ? Ça pourrait être où ?
Dans l'espace ?
C'est une ville station spatiale, vous voyez, avec une forme torique. Et puis alors, vous voyez, il y a tout ce qu'il faut, des montagnes, des habitations, de l'air. C'est une immense station spatiale avec tout ce qu'il faut dedans. Voilà, une ville du futur lointain, sans doute beaucoup plus lointain que celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Qui est quand même une ville qui était a priori peut-être sur l'eau, mais en tout cas une ville une ville sur la planète Terre. Une autre image encore hein, de ces villes par exemple du futur, voilà, c'est la même vue de l'intérieur, voyez. Alors ça c'est le futur, enfin c'est le futur. Est-ce que c'est le futur qu'on va avoir? Et si c'est le futur qu'on va avoir, pourquoi c'est celui-là et pas ceux que je vous ai montrés avant ?
Bah non, c'est le futur qu'on imagine, qu'on voudrait avoir.
Très bien. On a décidément quelqu'un de très efficace ici au premier rang. J'espère que les autres pourront participer aussi, mais je te félicite. Tu peux le redire ?
C'est la ville qu'on voudrait avoir dans le futur. Très
bien. C'est la ville que l'on imagine, que l'on voudrait avoir pour le futur aujourd'hui. Les projets de ville station spatiale sont quelque chose relativement... Alors, c'est pas très récent, ça remonte aux années 50, mais en tout cas, ce genre de projet de ville très vert, ce genre de projet de ville écologique, c'est le genre de futur urbain, humain, que l'on imagine aujourd'hui. Mais l'imagination du futur, elle n'est pas statique. L'imagination du futur, elle est toujours en mouvement. Par exemple, la musique que vous écoutez n'est pas celle que j'écoutais quand j'avais votre âge. Les films que vous allez voir au cinéma ne sont pas généralement les mêmes, même s'il y a des rétrospectives qui vous permettent de redécouvrir des films anciens. C'est-à-dire que votre culture, à vous, lycéens et collégiens, n'est pas exactement la même que la mienne parce qu'on n'a pas le même âge. Et non seulement on n'a pas le même âge, mais on n'a peut-être pas aussi grandi avec les mêmes repères culturels. Ce qui veut dire que le futur n'est qu'une question de perception subjective. Lorsque vous imaginez le futur, vous n'imaginez pas le futur, vous imaginez un futur possible en fonction de votre culture qui vous sert en quelque sorte de filtre. Vous triez les éléments que vous avez à votre disposition et vous imaginez un futur. La science-fiction, c'est exactement cela. Un auteur de science-fiction vit toujours dans une société, il vit toujours entouré de personnes, il vit toujours dans une nation, dans une ville donnée, et donc il va imaginer le futur à partir des éléments qu'il a autour de lui. Par exemple, si je dis à monsieur là qui est là, ça va, pas de stress, moi. Si vous deviez imaginer quelque chose du futur, qu'est-ce que vous me diriez? Décrivez-moi un élément, une ville du futur, par exemple.
Une ville?
Ce que vous décririez, qu'est-ce que vous diriez sur le futur?
Je sais pas.
Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, par exemple? Est-ce que Nantes va changer de visage dans 10 ans?
Sûrement.
Qu'est-ce qu'il y aura comme bâtiment?
Des grands bâtiments.
Des grands bâtiments, vous pensez qu'on va multiplier les grands bâtiments?
Oui.
Donc vous allez imaginer l'évolution de la ville, enfin si vous êtes de Nantes hein, peut-être, voilà. Non, ben, enfin, vous connaissez Nantes, voilà. Vous allez au lycée à Nantes? Près de Nantes? Non? Vous venez d'où?
Le Mans.
D'accord. Donc vous pourriez imaginer par exemple le futur du Mans. C'est un exercice qu'on pourrait vous faire faire. Ça veut dire que ce que vous allez imaginer, ça part toujours de ce que vous avez autour de vous. Ok? L'auteur de science-fiction est donc quelqu'un qui va non pas dire quel va être le futur, mais l'auteur de science-fiction va vous dire comment lui, il voit le futur d'un certain point de vue. Tout simplement parce qu'il est placé à un certain endroit. Alors, à la fin du 19e siècle, on était en pleine révolution industrielle et technique. Les auteurs imaginaient que les machines, je ne parle pas des ordinateurs, hein, je parle des machines en général, que les machines allaient complètement changer la face du monde et que finalement la technique était la solution à tous les problèmes de l'humanité. Est-ce que vous pouvez me citer au moins un auteur qui a fait de l'objet technique futuriste le cœur de son travail d'écrivain? Allez, un auteur qui n'est pas très connu, en même temps ma question est difficile. Hein. C'est vraiment un auteur pas du tout connu, enfin il est même d'ailleurs pas réputé hors de France. Et finalement, ces romans n'ont rien d'extraordinaire. Je blague, évidemment. Alors, de qui je parle?
Isaac Asimov.
Ah, mais pas mal. Isaac Asimov, alors c'est plutôt le XXe siècle. Hein. Vous l'avez bien vieilli, là, le pauvre Isaac. Isaac Asimov, il est mort en 1992, donc c'est le siècle XXe, hein, pas le XIXe. Et c'est un auteur qui, effectivement, a mis l'objet technique futuriste au cœur de son travail, avec les robots, notamment. Il a imaginé que les robots allaient changer complètement le comportement des gens et les relations humaines. Un autre auteur du 19e siècle, allez, 1860-1870, qui a grandi à Nantes, un auteur français, mort en 1905, Jules Verne, merci, très bien. Eh bien, Jules Verne est précisément l'incarnation de ce que je vous dis, c'est-à-dire que quand il commence à écrire ses voyages extraordinaires, qu'est-ce qu'il fait? Lui, c'est un navigateur au départ. Il navigue sur les mers du globe, c'est un marin, et il va rencontrer son éditeur Hetzel, et ensemble, ils vont vouloir développer la connaissance du monde, pour les adolescents, notamment. Et donc, ils vont écrire des romans où l'objet technique est merveilleux. Alors, ils vont par exemple, ils vont pas inventer, hein, parce qu'en fait, ils sont au courant des dernières recherches, et on dit toujours que Jules Verne a tout anticipé, c'est pas vrai. Hein. Souvent, il était tout simplement très vigilant, très à l'affût des dernières découvertes. Ils vont nous montrer des sous-marins, Ils vont nous montrer des vaisseaux flottant sur l'eau, des villes flottantes. Robur le Conquérant, des villes volantes, par exemple. Et dans chaque roman de Jules Verne, il y a une vision du futur. Il y a une vision du futur qui est l'écho, comme un écho quand vous criez face à une montagne, qui est l'écho qui revient de la mémoire qu'il a du présent. Tout simplement, sa vision du futur, elle n'est pas absolue, il s'est trompé. On n'a pas de ville volante, on a très peu de villes flottantes. Celle-là pourrait être vaguement inspirée de Jules Verne. On a conquis la Lune, oui, on est allé sur la Lune, ça, il ne s'est pas trompé, mais il y a beaucoup de choses qu'il avait vues qu'on n'a pas fait exactement comme ça. Et puis, bien sûr, son voyage au centre de la Terre, même si c'est un roman absolument merveilleux, aujourd'hui, les connaissances que l'on a sur la géologie montrent bien que ça n'est pas possible. Donc, ça veut dire que Isaac Asimov ou Jules Verne, par exemple, sont des gens qui nous disent aujourd'hui comment on voyait le futur à leur époque. Beaucoup plus que ceux qui nous disent « voilà ce que sera votre futur ». Donc vous voyez que si on regarde le voyage dans le temps et qu'on se projette vers le futur, on est plus dans une réflexion sur nous-mêmes finalement et sur ce que représente le futur pour nous que dans une véritable réflexion sur ce que sera l'avenir. Autre élément important que j'aimerais voir avec vous maintenant, deuxième étape de ma communication, c'est le voyage dans le passé. Si l'image apparaît. Non ? Ah, si, voilà. Alors, dites-moi un peu. Imaginons qu'on soit des voyageurs temporels. On va dire qu'on est capable de voyager dans le temps. Imaginons que, puisque tout peut commencer par la fin, sinon on prend un cycle, imaginons qu'on voyage dans le passé. Et que, par exemple, on décide d'agir sur ce qu'on va découvrir autour de nous. Imaginons, par exemple, on va faire un tout petit voyage, mais très simple. Dans votre tête, vous allez le faire avec moi. Imaginons qu'on revienne il y a 25 minutes. On prend notre machine, toc, on revient il y a 25 minutes, au moment où moi j'arrivais ici avec mon ordinateur. Imaginons que monsieur que j'ai embêté, qui vient du Mans, mais qui m'aime bien quand même, à qui j'ai posé des questions, ils se disent, il m'a gavé là avec ses questions, faut que je m'en débarrasse. Donc, il revient à 25 minutes dans le passé, quand moi j'étais là, il me fait un immense croche-patte, je me casse le genou en tombant, on m'évacue à l'hôpital de Nantes. Résultat, pas de communication sur le temps, et vous pouvez tous aller vous balader. Alors, lui, il est content, peut-être. D'autres, peut-être, vont dire, quel dommage, on rêvait d'écouter Hugo, nous parler du temps, tout ça. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a changé le futur. C'est pas le passé qu'il a changé. Parce qu'on dit toujours il a changé le passé, mais c'est faux. Il a changé le futur. C'est-à-dire que puisqu'il m'a fait un croche-patte et que je me suis vautré, et que donc en théorie maintenant, au lieu de vous parler, je suis à l'hôpital dans une autre ligne temporelle, il a changé le futur, pas le passé. Donc ça veut dire que si on se tourne vers le passé, on peut le changer. Par l'imaginaire, bien sûr. Je parle d'imaginaire, je ne fais pas de science de physique. Alors, changer le passé, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire... Oui, une question ?
Parfois, ça peut être dangereux de changer le passé parce que ça peut faire des choses mal dans le présent et dans le futur.
Bien sûr. Imaginez si j'avais pas été là pour vous parler. Ça aurait été quand même extrêmement triste. Oui, c'est sûr que si vous retournez un peu plus loin dans le passé et que, par exemple, vous empêchez vos parents de se rencontrer, quelque part, on est face à ce qu'on appelle traditionnellement en science-fiction un paradoxe. Parce que si ses parents ne se sont pas rencontrés, ne se sont pas aimés, vous n'êtes pas né. Et si vous n'avez pas vu le jour, comment avez-vous pu voyager dans le temps pour revenir dans le passé, pour empêcher votre naissance ? Ça va là, jusque-là ? Parce que si je n'avais pas été là pour vous parler, pourquoi je suis maintenant là, alors que monsieur est revenu 25 minutes dans le passé pour me casser la jambe ? C'est pas normal, je ne devrais pas être là, logiquement. Et si tout le monde là, faisait des petits voyages temporels un peu partout dans tous les sens, vous imaginez le chaos que ça serait ? Ça veut dire que vous seriez à la fois vivant et mort, à cet endroit et ailleurs, et ensemble ou séparés. Donc ça, c'est la science-fiction qui permet ça. Alors on ne va pas se donner le vertige, là, parce que ça devient un peu... Bon, on va essayer de rester sur l'histoire et le temps des sociétés. Éric Henrier, qui est un ami et un essayiste important de la science-fiction, a écrit un superbe bouquin sur ce qu'il appelle l'histoire revisitée. L'histoire revisitée, c'est ces histoires de science-fiction qui racontent comment le monde aurait pu être, d'accord ? Comment le monde aurait pu être, alors j'aurais été, tu aurais été, il aurait été, c'est quoi comme temps ça ? Ah, alors attendez, on va faire comme ça. Si je n'étais pas venu aux Utopiales, j'aurais pu aller au cinéma voir autre chose. Qui a fait de la grammaire dans cette salle ? J'espère que les enseignants s'accrochent à leur siège. Alors, si, c'est quoi comme temps ? Conditionnel et j'aurais pu aller au cinéma. Comment on appelle ça ? Le ? Le quoi ?
Non, c'est moi qui suis derrière.
Non, c'est pas moi. Non, non, c'est pas moi, c'est derrière.
Je suis prof de français, alors je vais peut-être pas répondre.
Si personne répond, si personne répond, c'est ce que je fais. Je voyage dans le temps et je vous empêche de devenir prof de français. Comme ça, vous pourrez répondre. Oh, ça, c'est vraiment, c'est ce qui s'appelle tomber dans le piège. Notez bien son nom. Comment c'est ton nom ? Non, je rigole. Oh là là. Alors.
Le conditionnel passé.
Conditionnel passé. Et puis, qu'est-ce qu'on a aussi comme temps qui est intéressant, qui réfléchit sur ce qui pourrait se passer dans l'avenir si le passé avait été différent ? Non ? Bon, on va rester sur ça. Je perds mon image. Donc, le conditionnel passé, vous voyez bien qu'il y a une condition. Il faut que quelque chose change. Alors, la science-fiction s'amuse beaucoup avec ça, s'amuse énormément avec ça. Et il y a des romans qui racontent des temps qui n'ont pas existé. Alors, comment on appelle, allez, ça vous le savez, j'en suis sûr, comment on appelle une cité parfaite qui n'existe nulle part et qu'on considère comme parfaite ?
Une utopie ? Une utopie ?
Très bien. Une utopie. Alors, utopie, ça vient d'un mot grec. Enfin, ça vient de deux mots grecs, ou qui veut dire qui n'est pas, ou qui est absence de quelque chose, mais qui veut dire aussi le lieu du bonheur, et où, par exemple, et topos, comme la topographie, c'est le lieu. Donc, ou topos, utopie, c'est littéralement le lieu qui n'existe pas. L'utopie est un genre littéraire qui est né en 1516, sous la plume d'un Anglais qui s'appelait Sir Thomas More. Et Sir Thomas More avait imaginé un lieu idéal pour critiquer, en fait, son pays, parce qu'il considérait que la politique de son pays était catastrophique. Donc il s'est dit, je vais décrire un idéal, peut-être là où tout ira mieux. Eh bien, l'histoire revisitée, c'est le nom français, sans jargon, si vous voulez, c'est pour ça que l'expression est belle, on revisite l'histoire, d'un genre littéraire qui est très vieux, en fait. C'est pas du tout récent, hein. Aujourd'hui, tout le monde en parle, c'est dans les séries télé, on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau. En fait, pas du tout. Ça s'appelle l'Uchronie. Alors, qui me dit ce que Uchronie veut dire, sachant que utopie veut dire la cité idéale ou qui n'a pas existé ? Uchronie.
Uchronie, ça vient pas de chronos, qui est le temps.
Oui, très bien. Merci, j'ai failli tomber, hein. Ça, c'est votre faute. Hein. J'ai failli y rester. Hein. Chronos, le temps. Donc, utopie, le lieu qui n'existe pas. Uchronos.
Non, ça.
Uchronos. Mais si, dites-le.
Non, mais je sais pas.
Non, mais si. Uchronos, je vous torture, je suis vraiment un sadique. Uchronos, le temps qui n'existe pas. Très bien. Alors, première chose très importante, lorsqu'on parle d'Uchronie, il faut bien quand même se rappeler que c'est un jeu sur l'imaginaire, uniquement. Et que donc, l'histoire que l'on va vous raconter n'a pas existé et que tout le monde le sait. C'est pas donc, c'est très important de le noter, une critique de l'histoire réelle. Si par exemple, moi j'imagine un monde où on parle plus français en France, on parle anglais. Pourquoi ? Parce que l'Angleterre a gagné la guerre de 100 ans. Votre professeur d'histoire, qui peut être dans la salle, et qui est quelqu'un d'extrêmement recommandable, va vous dire non, mais attendez, là, c'est des bêtises. Hein. C'est des bêtises absolues. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Et il a raison. Dans les faits historiques, nous savons très bien comment la guerre de Cent Ans s'est passée. Nous savons très bien, par exemple, que ce sont les Alliés qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. D'accord ? Je vais peut-être vous interroger sur la Seconde Guerre mondiale ? Non, je vais laisser tomber. Mais vous savez que c'est pas l'Allemagne nazie qui a gagné la Seconde Guerre mondiale. Hein, sinon, le monde serait quand même extrêmement différent. Eh bien, l'Uchronie, c'est une imagination sur comment le monde serait aujourd'hui, si quelque chose avait été différent. Alors, voyez le livre d'un auteur qui était présent aux Utopiales cette année, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Javier Negrete. C'est un Espagnol. Et il a écrit un ouvrage absolument charmant, qui est une uchronie, qui s'appelle « Alexandre le Grand et les aigles de Rome ».« Alexandre le Grand et les aigles de Rome ». Et il imagine, dans l'Antiquité, une rencontre entre Alexandre le Grand et Rome. Alors bon, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, hein, bien sûr, mais on sait très bien, et vos professeurs vous l'ont peut-être appris, si c'est au programme, que l'empire d'Alexandre le Grand était un empire qui s'étendait vers l'Est. Il est parti de la Grèce et de la Macédoine, et il s'est tourné vers l'Est, il ne s'est pas tourné vers l'Ouest. Il s'est tourné vers l'Est, il s'est tourné jusqu'à l'Inde, il a traversé la Turquie, ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie, puis il est allé jusqu'en Inde. Mais que se serait-il passé si Alexandre le Grand, au lieu de se tourner vers l'Est en partant de chez lui, s'était tourné vers l'Ouest ? Et que se serait-il passé s'il avait conquis l'Italie, la France, l'Espagne, etc. ? On aurait un monde complètement différent à ce moment-là. Et qu'est-ce qui se serait passé s'il avait rencontré la République romaine ? Parce qu'il y a, vous voyez, un grand défaut de vos cours d'histoire, même si j'aime beaucoup vos enseignants. Il y a un grand défaut, c'est qu'on vous apprend les choses de façon segmentée. C'est-à-dire qu'on vous dit, allez, bon, aujourd'hui, on va faire les Grecs. Alors les Grecs, ça commence là, ça finit là, mais bon, voilà les Grecs. Après, on va faire les Romains. Alors les Romains, ça commence là, ça finit là. Après, on va faire le Moyen-Âge. Ça commence là, ça finit là. Puis la Renaissance. Puis, je vais aller jusqu'à là-bas. Voilà. Mais en réalité, toutes ces périodes historiques se chevauchent, en fait. Et pendant qu'Alexandre le Grand explorait l'Anatolie, c'est-à-dire ce qu'on appellera plus tard la Turquie, Rome existait déjà comme une république. Et donc il y avait déjà aussi des Romains. Vous voyez, on a l'impression toujours que ça se succède. Alors dans les aigles de Rome, eh bien, il imagine qu'Alexandre le Grand est allé à l'ouest et qu'il a affronté l'armée romaine, la légion romaine. Eh bien, vous savez pas quoi ? Il a eu l'outrecuidance de gagner, dis donc. Moi qui suis italien d'origine et je suis pas né à Rome, mais ma famille vient de là-bas, je trouve ça totalement insupportable. Attendez, mais l'armée romaine était imbattable, tout le monde le sait bien. J'espère que vos enseignants vous apprennent que l'armée romaine était imbattable, parce que personne n'a jamais battu l'armée romaine. Ce qui s'est passé, c'est que l'Empire romain s'est effondré parce qu'il a mal été gouverné. Mais lui, avec beaucoup d'arrogance, en tant qu'Espagnol, olé, il imagine que Javier Negrete imagine que Alexandre le Grand gagne. Et le monde change. Ça, c'est ce qu'on appelle l'Uchronie, c'est-à-dire une visite temporelle dans un monde qui n'existe pas. Et c'est ça que peut vous offrir la science-fiction. Vous voyez, la science-fiction, elle ne vous envoie pas simplement dans l'espace, elle vous envoie dans le temps. Et comme je ne suis pas physicien, je ne vais pas m'amuser à vous raconter que l'espace et le temps, c'est la même chose, parce que je n'aurai pas les arguments théoriques suffisants pour vous le justifier. Mais ce que j'espère vous montrer, c'est que la science-fiction vous envoie aussi, pas simplement ailleurs, elle vous envoie quand ? À un autre moment, dans un autre temps. Vous vous rappelez peut-être cette vieille série que vous avez peut-être vue à la télé, La Quatrième Dimension, avec des petits épisodes en noir et blanc où on vous racontait des voyages dans le temps et des paradoxes temporels. Donc vous êtes ici.
Du temps dont tu parles.
Oui, le tunnel du temps aussi. Le tunnel du temps était vraiment que sur les voyages dans le temps. Il y a beaucoup de voyages dans le temps quand même, dans la quatrième dimension, mais effectivement, Georges Bormann, au premier rang, mesdames et messieurs, un lycéen, s'il en est, rappelle que la série était aussi, oui, une série qui s'appelait Le tunnel du temps. Très bien. Alors, vous êtes là, avec moi. Tout à l'heure, vous ne serez plus là. Il y a trois quarts d'heure maintenant, vous n'étiez pas là. mais en même temps avec n'importe quel bouquin de science-fiction, à peu près convenablement écrit. Et pour savoir s'il est bien écrit, il faut aller écouter Claude Eken qui vous expliquera comment l'écrire. Vous pouvez vous balader dans n'importe quelle période temporelle d'un simple claquement de doigts, en tournant une page, en ouvrant votre liseuse électronique ou votre ordinateur. Alors je finis par mon dernier point, et puis on fera les questions. Dernier point, c'est le voyage dans le temps lui-même. Et à tout seigneur, tout honneur quand même, regardez cet homme comme il est. Il est comment ? Il est bien habillé déjà. Hein. Il est fier de lui, hein. Vous avez vu, regardez, attendez, j'essaye. Voilà. Il est fier de lui, pourquoi il est fier de lui ? Alors comment il s'appelle ? Ah, c'est pas marqué à l'écran, allez. Herbert, George, Wells, très bien. Herbert, gardez le micro. Qu'est-ce qu'il a fait ? Pourquoi il est fier de lui comme ça ?
Bah, il est écrivain et il a écrit plein de choses.
Oh, attendez, tous les écrivains n'ont pas forcément à être fiers d'eux. Hein. Bah, sinon, à ce moment-là, il faut que les lecteurs soient fiers aussi. Hein. Pas parce qu'on est écrivain qu'on est meilleur. Hein. Attention. Hein. Vous ne devez pas avoir un respect pour les écrivains juste parce qu'ils sont écrivains, ça n'a pas de sens. Hein. Vous devez respecter les écrivains qui vous disent des choses et qui sont bons. Mais les mauvais écrivains, pas de raison en soi de dire « Ah là là, c'est un écrivain, alors il est meilleur que tous les autres. » Pas du tout. Être écrivain, c'est un métier comme un autre. Il n'y a pas de raison de se glorifier d'être écrivain. C'est tout. C'est juste être écrivain et dire des choses intéressantes. Alors là, oui, on peut dire « J'ai fait quelque chose. » Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Pas simplement être écrivain, qu'est-ce qu'il a fait ? Oui, il y a un monsieur là-bas. Attendez d'avoir un micro, comme ça on peut vous entendre.
Deux.
Allez-y.
Bah en fait, il est parti.
Il est parti. Mais oui, mais où ? Alors ?
Non, mais...
Vous savez, on a tout le temps, hein, parce que moi, j'ai tout mon temps.
Il est parti de rien ?
Il est parti de rien, bon. Peut-être. Mais qu'est-ce qu'il a fait, surtout ? Qu'est-ce qu'il a écrit pour être comme ça, vous voyez, cette attitude un peu fière, de fier à bras ? Qu'est-ce qu'il a écrit Herbert George Wells ? Citez-moi le titre d'un de ses ouvrages, d'un de ses romans.
La guerre des mondes.
La guerre des mondes, très bien. Superbe texte. La guerre des mondes qui raconte l'invasion de la Terre par Mars. Plus particulièrement, l'invasion de l'Angleterre par Mars. Des martiens belliqueux et méchants qui, en fait, vont envahir l'Angleterre, parce qu'à cette époque, la Terre, c'était surtout l'Angleterre. Et puis, qu'est-ce qu'il a écrit d'autre ? Allez, il y en a au moins quatre, hein, des très grands classiques.
Les premiers hommes sur la Lune ?
Oui, et puis
L'homme invisible ?
Très bien, très très bien, L'homme invisible. Très très beau texte, L'homme invisible.
L'île du docteur Moreau ?
Oui, L'île du docteur Moreau, où on modifie les animaux pour leur permettre d'avoir une voix humaine. Très bien. Et puis surtout, eh bien, il a écrit... La machine a exploré le temps. Et La machine a exploré le temps, c'est le plus grand de tous les classiques de la science-fiction. C'est presque encore... Allez, moi je vais le dire pour moi, hein, même si j'aime énormément Jules Verne. Hein, c'est au-dessus de Jules Verne. Même 20 000 lieues sous les mers, qui est quand même un texte absolument merveilleux et qui n'a pas vieilli, que vous pouvez lire encore aujourd'hui... Pour moi, La machine à explorer le temps, c'est encore au-dessus. Pourquoi ? Parce qu'il y a une liberté de spéculation, d'imagination quasiment infinie, puisque le voyageur temporel va pratiquement aller jusqu'à la mort de la Terre. Et il va explorer des futurs, successivement, très 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 lointains, en l'an 802 1702. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, c'est qu'il nous raconte... Alors, qui a lu, je vais faire un petit sondage et après je répondrai à vos questions. Levez la main ceux qui ont lu, je dis bien, pas vu les adaptations parfois minables et atroces de La machine à explorer le temps. Certaines sont bonnes, d'autres sont strictement concernantes, mais c'est un point de vue subjectif. Mais qui a lu La machine à explorer le temps ? Levez la main. Georges Bormand au premier rang. Donc, ça veut dire qu'aucun d'entre vous, à part des gens dont la timidité est telle que la paralysie les saisit à la moindre idée de simplement lever la main, j'espère qu'il n'y en a pas dans cette salle, aucun d'entre vous n'a lu La machine à explorer le temps. Alors, je vais revenir en arrière dans le temps et je vais changer ça. Alors, regardez, on va le faire. Je voyage dans le temps, attention. Ça y est, donc je suis revenu au même moment. Alors maintenant, je repose ma question. Qui a lu La machine à explorer le temps? Vous n'êtes pas joueur, hein? Bah oui, tout le monde, parce que j'ai changé le passé, donc logiquement, vous l'auriez tous lu. Bon, c'est très mal, hein. C'est très très mal, et je ne sais pas si je dois m'en prendre à vos enseignants ou à vous, mais en tout cas, venir aux Utopiales sans avoir lu un classique aussi important que La machine à explorer le temps de la science-fiction, c'est dur. J'espère qu'après ce jour... Oui, bon, nous avons peut-être lu... Restons sur ça. Oui, ça pourrait les excuser, mais là, on part sur des chemins un peu différents. J'espère que vous le lirez. Je vais essayer de vous convaincre de le lire. La machine à explorer le temps a un avantage extraordinaire, c'est d'être à la fois une uchronie, une utopie et de la pure science-fiction. C'est-à-dire, d'abord l'histoire d'une aventure incroyable d'un voyageur temporel qui peut inverser le temps et partir dans n'importe quelle époque grâce à sa machine. C'est une uchronie parce qu'il peut potentiellement changer le passé, même s'il ne le fait pas. Et c'est enfin une utopie parce qu'il mène une très belle réflexion sur ce qu'est l'humanité. Lorsque le voyageur se déplace dans le futur lointain, il va rencontrer deux espèces apparemment distinctes. Une espèce qui vit en surface de la Terre, dans des jardins fabuleux, qui mange des fruits et qui passe son temps à jouer, qu'on appelle les Élois. C'est une utopie idéale. Tout est beau, ils sont heureux, l'herbe est verte, et on passe sa vie à jouer, pas d'études, pas de travail, pas de contraintes, pas de pollution, pas de drame, pas de criminalité, rien. Le bonheur parfait. L'humanité du futur a trouvé le bonheur parfait. Et puis, sous la surface, dans les grottes, dans les souterrains d'où montent des rumeurs étranges, il y a des monstres, les Morlocks. Sombres, extrêmement puissants, et qui travaillent sans fin sur des machines, et qui ne voient jamais la surface, qui sont quasiment aveugles. Lorsque le narrateur découvre ces deux espèces, successivement, d'abord les Élois puis les Morlocks, il fait une première hypothèse, il pense que les Élois sont les maîtres des Morlocks, et que d'une certaine manière, l'humanité a su réduire, un peu comme dans l'île du docteur Moreau qu'on évoquait tout à l'heure, a su réduire peut-être une partie d'elle-même en état de serviteur esclave. Ce qu'elle a fait d'ailleurs, hein, bien souvent dans le passé, hein, avec l'histoire de l'esclavage. Les Morlocks sont les esclaves des Élois. Mais malheureusement, c'est moins une utopie qu'il peut y sembler, et que le monde des Élois, en réalité, est loin d'être le monde de la perfection qu'on imagine au premier regard. Et les Morlocks, loin d'être les esclaves des hommes, de la surface sont tout autre chose. Et je ne vous dirai pas ici ce qu'ils sont. Il faudra lire le texte ou au moins voir l'une des adaptations. Voilà donc une histoire de voyage temporel, comme il y en a beaucoup. Il y a René Barjavel aussi, qui est un Français, qui a écrit Le Voyageur imprudent. Et Le Voyageur imprudent, eh bien, ça me ramène au début de ma conférence. C'est un voyageur qui voyage dans le passé, et qui va notamment commettre la dramatique erreur de rencontrer ses ascendants, parents et surtout grands-parents. Et donc il va lui arriver des choses un petit peu problématiques. Alors le voyage dans le temps, ça a été, aussi bien dans le futur que dans le passé, aussi bien par l'uchronie que par le voyage temporel, ça a été l'une des plus grandes aventures, et ça le reste encore, l'une des plus grandes aventures de la science-fiction. Alors nous, Français, on est capables d'en écrire de très bons. Les Espagnols en font aussi, hein, je vous en ai montré. Et puis alors les Anglo-Saxons adorent ça. Vous avez ici, par exemple, Roma Eterna. Roma Eterna, c'est l'œuvre d'un écrivain américain qui s'appelle Robert Silverberg, qui est toujours vivant aujourd'hui, qui a une œuvre extraordinairement touffue. Et dans Roma Eterna, bien, il imagine la continuation de l'Empire romain jusqu'à nos jours, et même plus loin que nos jours. Vous voyez ici une vision qui mêle antiquité et futur technologique. Voilà donc ce qu'on peut dire. Je vais m'arrêter là pour répondre à vos questions. Il me reste 10 minutes. Ce qu'on peut dire sur le voyage dans le temps et le temps comme espace d'exploration de la science-fiction. Alors, qui a des questions ? Allons-y, je vous laisse le temps pour les questions. Pas de questions ? Aucune ? Je vous ai tétanisé ? Vous avez peur de poser la question qui m'obligerait à voyager dans le temps pour que vous ne la posiez pas ? Aucune question sur le temps en science-fiction ? Bon, alors je vous donne encore une ou deux références, parce que j'ai encore du temps. Alors un exemple, par exemple, qui est trouvé sur Internet, celui-là. La planète des singes, ça vous dit quelque chose ? Ah, voilà. Alors c'est de qui, la planète des singes ? Peut-être vous l'avez au programme ? Pierre Boulle, un auteur. Pierre Boulle, il écrivait avec Bill, vous savez ? Boulle et Bill, vous avez lu ça déjà ? Mais c'est Pierre Boulle, hein. Non, c'est une blague là aussi. Il faut que j'arrête de faire des blagues, ça vous déstabilise. Pierre Boulle, ça s'écrit B-O-U-2-L-E. Pierre Boulle, il a écrit La planète des singes. Et ça a fait l'objet de beaucoup d'adaptations au cinéma, beaucoup de romans. Et il y a une réflexion, vous voyez, sur les lignes temporelles divergentes. Ici, vous avez une représentation des lignes temporelles divergentes de La planète des singes. L'un des derniers films tardifs de la série a été filmé il n'y a pas très longtemps, peut-être vous l'avez vu, avec la naissance de César, ce singe génétiquement modifié, capable de parler et de réfléchir comme un être humain. Eh bien, là, vous voyez, vous avez un exemple de ligne temporelle divergente qui imagine à chaque fois, pour chaque film, la position temporelle de chaque personnage. Vous pourriez vous amuser à ça avec beaucoup d'autres sources et beaucoup d'autres séries télé. Peut-être certains connaissent en série télé Doctor Who. Qui regarde Doctor Who ? Voilà. Eh bien, vous savez que Doctor Who voyage grâce à sa machine aussi bien dans l'espace que dans le temps et qu'il peut se projeter dans n'importe quelle partie du temps et donc parfois être confronté à des doubles de lui-même ou à des aventures ou des personnages qu'il a déjà croisés. Toujours pas de questions ? Bien, bah écoutez alors, je vous libère. Comme ça, vous aurez un petit peu plus de temps pour les expositions et je vous remercie. Au revoir.